Bienvenue à tous pour cette troisième soirée entrevue à la FMSH, Fondation Maison des Sciences de l'Homme, qui nous accueille. C'est donc la troisième soirée. Nous accueillons une revue qui en est à son 13e numéro. Je vais passer la parole donc à Frédéric Fiolov, qui est le créateur de La moitié du fourbi numéro 13, pour ce numéro spéculaire, j'adore ce mot, qui va vous parler de miroitement. Bonne soirée à tous. À toi, Frédéric.
Silhouette, Sabinuine. Imagine qu'il ait gagné encore moins d'argent et que de couteau à viande il n'y ait pas eu dans sa main, qui savait frapper sans. Imagine qu'il ne se soit jamais relevé de sa chute éthylique pour te courir après dans le couloir, ton père, ton prédateur, ses genoux à terre, regard éteint, aussi gâté que la clarté piégée dans le miroir à trois pans de l'armoire, où tu vois la scène en contre-jour, figée, ton cœur pulsant comme une étoile à l'agonie, un phare dans la tempête et une chambre loin d'un rivage joyeux. Mais il lâche son arme et il pleure.
Bonsoir. Le miroir, Alice. Les petites filles, de quoi donc sont-elles faites? De sucre et d'épices, de toutes sortes de délices, voilà de quoi les petites filles sont faites. C'est une comptine anglaise des années 1820, un de ces limericks dont Lewis Carroll s'est tant inspiré dans ses récits. Mais on ne le trouve pas dans les aventures d'Alice. Car dans les aventures d'Alice, il ne s'agit pas de trouver de quoi les petites filles sont faites. Il s'agit simplement de les perdre. Et c'est une histoire d'amour. Elle s'appelle Alice, mais celle-là a un nom de famille. Mademoiselle Alice Liddell, 10 ans, et c'est la fille du doyen du prestigieux collège de Christ Church à l'université d'Oxford. Elle a 10 ans, il en a 30, lui, il ne s'appelle pas encore Lewis Carroll, il s'appelle le révérend Charles Dodgson, un petit diacre, modeste chargé de cours en mathématiques, qu'on autorise parfois à fréquenter la bonne famille de son supérieur, le respectable doyen. Un logicien doué, ce Dodgson, mais un universitaire médiocre, carrière en berne. Ne se mariera jamais. Ne voyagera loin d'Angleterre qu'une seule fois, pour voir des églises. Publie quelques poèmes, des chroniques amusantes, et plus tard des ouvrages de mathématiques sérieuses ou récréatives, déteste les petits garçons, raffole des petites filles, fréquentera toute sa vie de petites amies dont il s'éloigne à leur adolescence. Conteur infatigable, souvent amusant, parfois moins, quand il veut initier les petites filles au calcul propositionnel. Photographe amateur, pionnier du collodion, qui réalise entre autres les portraits de ses petites amies. Et parmi ses portraits, de jolies nues, allégories de l'innocence victorienne, en tout bien, tout honneur, qui font la fierté des mères. Il a des collections d'automates, de tours de magie, des jouets scientifiques pour amuser la jeunesse. Et quand il part en vacances, eh bien, il ne manque pas d'ajouter ses jouets à ses malles, bien emballés dans du papier de soie, des fois qu'il se ferait une petite amie à la plage. Voilà. Ce genre de type. Et en juillet 1862, accompagné d'un ami, il emmène la petite Alice Liddell et ses sœurs faire une promenade en barque. Et il en revient foudroyé. Jamais il n'oubliera cette promenade. Il offrira un peu plus tard à la petite Alice un manuscrit illustré par ses soins qui raconte l'histoire que vous connaissez, celle d'un lapin blanc et d'une petite Alice qui a, dans le récit, 7 ans. Une histoire qu'il avait inventée pour elle lors de cette promenade en barque. C'est un cadeau. Et ce n'est que bien plus tard qu'il se décidera à publier ce récit en livre. Mais comme je vous le disais, il n'a jamais oublié cette promenade. 10 ans plus tard, il la célèbre encore dans des vers. Et voilà ce qu'il écrit. Ce ciel ensoleillé a désormais pâli. Les souvenirs sont morts et les échos enfuis. Pourtant, elle est là, toujours, qui me hante. Alice, quand elle glissait sous des cieux qu'un œil éveillé ne saurait contempler. Les animateurs de Walt Disney ont su rendre hommage à la sauvagerie radicale des aventures d'Alice, mais en puisant indifféremment aux deux ouvrages, ils ont obscurci leur tragédie intime. Car il y a deux ouvrages. Il y a Alice au pays des merveilles et il y a un autre livre, À travers le miroir. Et celui-là, Carole ne l'écrit pas comme un cadeau, il l'écrit pour lui-même. Et cette suite des aventures d'Alice, qui paraît 10 ans après la première, est comme un reflet symétrique, obscur, désespéré du précédent. Toute la force vitale, heureuse et parfois sauvage de la première aventure s'y est comme délitée. Et quand le livre paraît, la vraie Alice a 20 ans. Quant à son avatar de papier, elle a 7 ans et demi. Elle a un peu grandi depuis sa dernière aventure. Elle va grandir encore. Et il est trop tard. Au Pays des Merveilles, on jouait aux cartes. Vous vous rappelez la Reine de Cœur. Dans À travers le miroir, on joue aux échecs. Monde aride et glaçant. Monde échiquier, à l'image de la société victorienne dont nul ne s'aviserait de contester les lois. L'avenir de la petite y est tracé d'avance. Alice, simple pion blanc, montera de rang en rang le plus loin possible du miroir depuis lequel nous la regardons. Sur la 8e case, conformément aux règles, elle deviendra une dame. Tout est écrit, tout vient trop tard. Et des barrières de classe surgissent, symboliques certes, mais elles disent la fin des goûters du dimanche avec le petit clergyman. Elles disent qu'un plan rigide d'accomplissement social doit régler la vie d'une jeune fille comme il faut. Elles disent que tout cela est bon, même si l'enfance en meurt. Carole lui-même s'est mis en scène dans cette tragédie de la perte. Il s'y campe en chevalier blanc. Knight, en anglais, désigne le cavalier des échecs. Carole, donc, est le chevalier blanc, un Don Quichotte vieillissant auquel il prête ses traits, grande carcasse, ses yeux bleus. Il s'inquiète de perdre ses cheveux, le chevalier blanc. Il avance en crabe, parce que les règles des échecs le veulent. Il tombe sans cesse de selle. Son rôle se borne à conduire Alice au bord de la 8e case, là où elle deviendra reine, une dame comme il faut. Et après quoi, dans le roman, il s'en retourne. En guise d'adieu, il lui chante, sur un air triste, précise Carole, la chanson du très vieil homme, Aged, Aged Man. Il voudrait la faire pleurer, ça aussi Carole le précise, mais il n'y parvient pas. Je me souviens qu'enfant, je sautais ces pages laborieuses et désenchantées, elles transpiraient pour moi l'humour funèbre d'un vieil oncle tâchant d'amuser un gosse. De leur mélancolie, je ne retenais que mon ennui. Mais il existe, je crois, un autre avatar plus troublant de l'auteur, comme une inversion en miroir du précédent. C'est Humpty Dumpty, le fameux œuf. Celui qui, selon la comptine, finit fracassé au pied d'un mur. Carole a fait de son Humpty Dumpty à lui une bombe à retardement, pure expression du désastre imminent. Il n'est pas encore tombé, c'est un œuf qui parle, un œuf énorme, perché en équilibre précaire sur un haut mur, gonflé d'orgueil irascible, qui crie et gesticule sans cesse. Et tout chez ce personnage parle de perte, la sienne, mais aussi celle d'Alice. Il est plein de colère, comme le chevalier était plein de tristesse. En guise d'adieu, il récite à la petite le poème des poissons. Cela raconte une tentative de meurtre, avortée. Le narrateur fait connaître aux poissons son désir, un désir que le poème ne dit pas. Les petits poissons refusent. Le narrateur insiste. Les petits poissons refusent encore. Alors, quand les petits poissons sont au lit, le narrateur remplit une bouilloire et la met au feu pour, dit-il, préparer sa vengeance. Il va les réveiller, il s'escrime contre la porte, et j'ai tiré, et j'ai poussé, des pieds et des poings, j'ai cogné. Et c'est la fin du poème. Il s'interrompt comme ça, lourd de violence rentrée. Alice va grandir, elle a grandi, il est trop tard. Apprenant qu'elle a 7 ans et demi, Humpty Dumpty s'offusque. Elle aurait dû s'arrêter à 7. On ne peut pas s'empêcher de grandir, objecte Alice. Personne n'y peut rien. Alors l'œuf, personne peut-être, mais 2 personnes, ils peuvent quelque chose. Avec une aide appropriée, vous en restiez à 7. Oui, ce serait peut-être beau de tuer une petite fille juste pour l'empêcher de grandir. Les règles, bien sûr, l'interdisent. Et les règles sont tout dans le monde de Carole. On ne les subvertit jamais. Alice Liddell a 30 ans et Carole lui écrit encore et toujours. Il l'appelle « ma petite amie idéale ». Il lui dit qu'il en a connu bien d'autres, mais qu'avec les autres, ce n'était pas pareil. Qu'elle, il ne pourra jamais l'oublier. Et plus tard encore, il la revoit. Elle a vieilli. Il ne le supporte pas. Il épanche sa tristesse dans son journal. Toute sa vie, il aura nié qu'elle eût inspiré son Alice de papier.
Dans L'écrivain et l'autre, Carlos Lizcano explore le dédoublement dont il fait l'expérience et qui est selon lui l'apanage de l'écrivain. C'est ce dédoublement qui m'a inspiré dans le texte paru dans le numéro 13 du Fourbi. Texte qui se prête assez mal à l'exercice de la lecture orale. J'ai donc choisi de m'attarder plutôt sur un des textes de l'écrivain et l'autre, un texte assez particulier puisque dans l'ensemble ce sont des textes courts qui font rarement plus de 2 pages, souvent une seule. Et que ce texte-ci, qui s'intitule « Vaincre le temps », qui est une autre particularité de ce texte, en fait une 20aine. En voici donc quelques extraits. Quand le cultivateur est-il né ? Il se souvient qu'il avait 9 ou 10 ans, qu'il jouait au football dans la rue avec d'autres enfants. Soudain, au milieu de la partie, il cessait d'appartenir au groupe. Il était en dehors et observait les autres. Et il jugeait et se jugeait. Être là, courir après le ballon, n'avait aucun sens. Et même plus, il ne comprenait pas ce que faisaient ses enfants, ce qui les motivait, pourquoi tant d'enthousiasme. Cela durait un instant, puis il retournait au jeu, courait, criait, chargeait. Bien des années plus tard, il était parvenu à déceler le cultivateur dans cet enfant qui se mettait hors jeu. Alors, il avait commencé à devenir un observateur, quelqu'un de différent. Alors, il avait pris l'habitude de cultiver le néant. Pas lui, l'autre, le vrai cultivateur. Coexister avec le cultivateur ne lui plaisait pas. Il avait toujours lutté contre lui. Il n'avait jamais pu le dominer. Et finalement, le cultivateur s'était imposé. Pour vivre, il faut empêcher le cultivateur de faire des siennes, le freiner, le maintenir à sa place. À présent, après des jours et des jours, la vie a recommencé. Alors maintenant, il faut permettre à la vie de s'imposer, de s'écouler, avec tous ses détails, ses petits riens sans signification, et par là même plein de signification pour la vie, qui n'est pas pensée, mais action, faire, faire, laisser faire, se laisser faire. Ou, au moins, se permettre de croire que les choses sont comme ça, que le cultivateur ne sera jamais vainqueur, que c'est l'âme la plus forte. La nuit vient, et avec elle, la peur. La peur que le monde ne se dépeuple naturellement, qu'il ne commence à ressembler au néant. Rentrer chez soi, sur le domaine du cultivateur. Ce sera une autre nuit passée à creuser et creuser encore, à se nourrir de sa propre substance, de ses souvenirs, de ses émotions, de ses sentiments. Ne pas s'alimenter. Nier sa vie, annuler le vécu, les noms, les jours, pour qu'il ne reste rien. Horizontale, la nuit. Il y a des nuits horizontales. Celle-ci en est une. La nuit est couchée, aux aguets. Elle s'étend sur la campagne et la mer, recouvre les rues, entre dans les maisons, monte dans les étages les plus hauts des immeubles. Elle n'a pas de limite. Mauvaise nuit si elle est horizontale. L'insomniaque tentera, toute la nuit, d'apaiser cette immense étendue sans limite. C'est la lutte, toute la nuit, contre la nuit horizontale. Territoire dépourvu de sentiers, masse de souvenirs, d'images, de demi-phrases, de mots dérivant sur des mots, des noms propres, des visages connus, des visages fugaces et connus, ayant conservé un peu de vie, qui aurait pu être une autre vie. Ennemi sans égal, la nuit, si elle est horizontale. Il y a une autre façon, meilleure et même belle, de voir les choses. Le cultivateur est un chercheur d'infini. Le cultivateur fouille comme un animal dans les souvenirs, les intentions, les illusions, les sentiments, la réalité. Il veut tout savoir à partir d'une petite vie de rien du tout. Donc il échoue. Le cultivateur est une bête. Il croit que comprendre, c'est dévorer, laisser rien à la place de tout. Et que, quand plus rien ne restera, il cessera de chercher. Qu'alors, il cessera de chercher à comprendre. Il rentre chez lui et écrit. Le cultivateur n'est pas un ennemi. C'est lui qui te prend par la main et te conduit vers les endroits que tu préférerais ne pas connaître, mais que tu voudrais connaître. C'est de là, de ces endroits, de la main du cultivateur, que tu as tiré en grande partie ce que ton âme a de meilleur. Le cultivateur n'est ni une bête, ni une malédiction. Il est ta création. Ce n'est pas la vie, c'est ta vie. comme il n'est pas possible de connaître l'âme d'autrui, on peut tout juste rôder autour. Si ça se trouve, ce que tu admires le plus n'est globalement que création des cultivateurs d'autres gens. Ne pourrais-tu pas arriver à un arrangement avec ton cultivateur ? Faire la paix ? Le reconnaître et te reconnaître ? Ne pourrais-tu pas lui permettre un instant de chercher sans t'y opposer ? Ou bien n'as-tu pas assez de courage pour une telle inquiétude ? D'une réflexion obsessionnelle, pourra-t-il sortir une littérature, quelque chose qui puisse être partagé ? L'invention du cultivateur, son histoire, son désir, la douleur que provoque sa quête, cela pourra-t-il dire quelque chose à quelqu'un ? Ou bien est-ce pure invention littéraire ? Pourrais-tu raconter à d'autres comment est le cultivateur ? Ce qu'il provoque ? Tout ce qu'il guette ? Et si le cultivateur était une invention positive, fille de la solitude essentielle dans laquelle on est et qu'on oublie par la suite ? L'autre vit, s'enthousiasme, tombe amoureux, pleure de douleur et de joie. Le cultivateur le laisse vivre, il ne l'intéresse pas. Il sait qu'il est seul et il cherche. Il ne crée pas le néant ne l'intéresse pas. Il troue la réalité parce qu'il cherche un soutien, quelque chose de ferme sur quoi poser le pied, qui lui dise qu'il n'est pas seul, qu'on ne naît pas seul, que la fin n'est pas la mort, ou que la mort n'est pas la fin. Le cultivateur perfore l'âme parce qu'il cherche, au fond, quelque chose qui n'est pas de fin, qui ne soit pas fini. Le cultivateur est un chercheur d'infini, de son propre infini, celui de chacun. Jamais il ne trouvera son propre infini. S'il le trouvait, tout perdrait son sens. La lumière, l'air, la compagnie, la douleur de celui qui ne s'échappe pas. Le cultivateur a cette chance d'avoir quelqu'un qui, au moment le plus inattendu, se souvient que la vie est ce qu'elle est et aussi autre chose, qu'elle transcende l'âme simple et pauvre de chacun. Sans la quête du cultivateur, on resterait en deçà de l'âme, à faire, laisser faire, se laisser faire jour après jour, jusqu'à la mort. Le cultivateur tente de tromper la mort, espère vaincre le temps à force de raconter la vie. Le cultivateur justifie notre petit néant. Il nous apprend que mieux vaut préférer le monde même s'il n'est pas bien fait. Vivre, ce n'est pas faire de la littérature. La vie n'est pas un scénario. Mais écrire peut devenir une raison de vivre.
L'animal aurait plusieurs têtes. Chacune serait accrochée à un cou et chaque cou serait une ramification d'un même tronc emmanché dans le corps unique de la créature. Elle ressemblerait à ce dragon mythologique dont les têtes repoussent en double quand on les tranche avec l'épée, de telle façon qu'elles se multiplient à l'infini. Mais cette bête-là ne serait pas effrayante. Mieux, on aimerait tous ses visages, car ils seraient tous aimables. On ne chercherait donc pas à la décapiter. On se réjouirait, au contraire, de voir chaque tête bourgeonner, éclore à côté des précédentes, grandir pour les égaler en taille. Leur multiplicité nous émerveillerait. D'abord, on les observerait ensemble, on croirait qu'elles sont identiques. Puis, on les passerait en revue, une à une. On comprendrait alors qu'elles présentent un air de famille, certes, mais aussi des variations. On ne s'y tromperait plus, chacune aurait sa personnalité propre. L'une serait la tête du personnage principal et l'autre serait celle d'un personnage secondaire ou inversement. Une troisième serait la tête du narrateur omniscient. Il y aurait aussi celle de l'auteur en tant qu'écrivain et celle du lecteur en tant que critique amateur. Et puis, à côté, une deuxième tête de l'auteur en tant que lecteur de lui-même, et une deuxième tête de lecteur en tant qu'auteur qui aurait pu écrire cette histoire, mais différemment. La tête du narrateur fusionnerait peu à peu avec celle de l'un des personnages. Soudain, une nouvelle tête jaillirait. Ça ferait un bruit un peu idiot, genre pop. Ce serait l'auteur, à l'âge de 10 ans, se projetant dans le futur et dans la peau de son personnage. On croirait que c'est enfin terminé, mais non. Pop, encore une. Cette fois, ce serait la tête du lecteur en tant qu'éponge. L'onomatopée serait plutôt pouitch-pouitch. C'est-à-dire celui qui croit tout ce qui est écrit, qui s'identifie à fond au personnage, qui éprouve les mêmes émotions au même moment, qui a mal à l'épaule gauche lorsque le méchant attaque le héros en s'écriant « tu es foutu » et en trouant son omoplate à la pointe de l'épée. Le lecteur serait volontaire pour cette expérience. Il se serait constitué prisonnier dans le kaléidoscope géant gardé par la bête, à l'instar des visiteurs du palais des Mirages au musée Grévin. Son image serait répercutée à l'infini sur tous les visages en mouvement. Il souffrirait parfois et il prendrait beaucoup de plaisir. L'auteur et le lecteur éprouveraient les mêmes maux et les mêmes joies, si bien qu'un observateur ne pourrait pas distinguer qui est l'original, qui est le reflet.
Tu triches. Tu as écrit ce texte bien avant que nous le lisions.
Ce serait un miroir quand même, mais situé à très grande distance. On prétend que le reflet dans la glace nous imite en temps réel, mais on se trompe, car la lumière se propage à la vitesse de 300 000 km par seconde. C'est rapide, mais ce n'est pas immédiat. Par exemple, nous sortons tout nus de la salle de bain, et dans l'encadrement de la porte, nous voyons notre double, dans la grande glace de l'armoire, au fond de la chambre, à 3 mètres de nous. Il a fallu plus d'un centième de milliseconde pour que les ondes portent notre image à travers la pièce. Quand je fais un geste, le reflet reproduit mon geste avec ce léger décalage. Alors, on pourrait décider la même chose entre toi et moi, puisqu'un an s'est écoulé entre mon écriture et ta lecture de cette histoire. Le miroir serait placé à une année-lumière de nous.
Et ton personnage n'a plus qu'à l'intimité ?
Tu n'y es pas. C'est le contraire. Je l'observe au télescope, à distance d'une année-lumière, donc, avec le plus de précision possible, et même, je te l'avoue, avec fascination. C'est moi qui voudrais lui ressembler. Mon reflet, c'est mon image inversée, l'identique en différent. Je rêve d'un autre qui serait exactement comme moi et à la fois vraiment un autre. Si différent que je voudrais lui ressembler, assez semblable, pour me laisser croire que je lui ressemble déjà. La question ne se poserait pas ainsi. Ce serait l'histoire d'un garçon qui ne sait pas s'il s'aime ou s'il ne s'aime pas, car il voudrait d'abord se connaître. Il serait fatigué de forcer ses yeux sur des images tronquées de lui-même, alors c'est dans la fiction qu'il chercherait son reflet. Il partirait en quête de ses semblables grâce au livre. Son épopée serait décevante, comme dans les miroirs déformants des parcs d'attractions. Le garçon rencontrerait des personnages souvent plus grands, parfois plus bizarres, toujours plus spectaculaires que lui. Il n'y reconnaîtrait pas ses proportions véritables. Ces personnages pourraient devenir des amis, mais pas des jumeaux. Alors, il déciderait que les livres ne sont ni sacrés, ni plus inaccessibles que les gens, parfois laids, parfois dignes d'admiration, mais composés du même sang que le sien. Puisqu'il pourrait prendre place dans cette assemblée sans rougir, ses histoires auraient le même droit d'exister. Il commencerait à écrire sa vie. Il deviendrait un personnage, lui aussi. Imagine la suite. Un jour, tandis que la créature continuerait de grandir, un aspirant héros chercherait aventure. Il serait intrigué par ce poulpe à la croissance infinie dont les tentacules seraient terminés par des têtes. Qui donc est le lecteur, l'auteur, le personnage ? L'intrépide s'épuiserait en questions inutiles. Il voudrait procéder par élimination en coupant les têtes à grands coups d'épée, mais elles repousseraient plus nombreuses à chaque fois. Il finirait alors par s'apercevoir qu'elles présentent toutes le même visage, depuis longtemps prévisible dans son ironie même. Le sien.
Des feuilles tombent à la surface. Des feuilles comme si c'était l'automne alors qu'on est en plein été. C'est l'été que l'on nage, que l'on se baigne dans les piscines. C'est l'été et pourtant le film commence comme ça, sur un sous-bois, sur une forêt, sur les rives d'un fleuve, sur sa surface sombre d'où s'envolent les oiseaux, sur le regard luisant d'un cerf qui lève la tête avant de disparaître, puis de nouveau le fleuve. L'épais rideau des feuilles d'où soudain sort un homme, un bel homme en maillot de bain qui semble venir de là, de cette improbable forêt. Un homme qui porte avec lui son paysage, sa folie, sa beauté. Un homme qui sautille pieds nus sur les pierres plates pour rejoindre un jardin, une piscine, et plonger dans l'opale. Nous ne sommes pas dans une forêt sauvage, mais dans une banlieue résidentielle du Connecticut. Lorsqu'il ressort, quelqu'un lui tend un martini. Ned Merrill est l'homme que tout le monde attend. Les hommes envient sa forme éblouissante, sa peau bronzée. Les femmes flirtent devant leur mari sans même s'en soucier. Apprécier cet homme-là n'est pas un plaisir coupable tant il est impossible de lutter. Il est là, à promener son corps parfait au bord de la piscine. Ulysse revenu dans l'Amérique bourgeoise des années 60 en petit short de bain bleu marine. C'est un convive agréable, même s'il a des absences. Lors d'un instant que le cinéma dilate, il se laisse tout entier pénétrer par des réminiscences qui se changent en idées fixes. Quand il sort de sa rêverie, il déclame devant ses amis ébahis son projet fou. Il rentrera chez lui, à la nage. Il dit « Je peux y arriver. Les piscines forment une rivière ininterrompue jusqu'à chez nous. » Il ne quittera plus cette eau qui fait ressurgir en lui la rivière remontée de l'enfance, cette eau transparente et vert clair où on aurait fait le tour du monde à la nage. Voilà ce qu'il va faire, le tour du monde ou presque. De piscine en piscine, le tour de leur monde étriqué, bien mis et bien pensant. Cette rivière qui n'existe pas, il la baptisera du nom de sa femme, Lucinda. Le rêve de Ned Merrill est un rêve de connexion et de fluidité. Un rêve de continuité entre des objets par essence discontinus, les piscines, ces enclaves idylliques mais étanches, il les changera en fleuves, en flux, en courants. Le rêve de Ned Merrill, c'est l'abolissement des frontières domestiques. C'est un monde poreux, un monde qui circule. C'est précisément le contraire de l'Amérique des années 60 où chacun accumule les signes de sa réussite matérielle, sa piscine, sa voiture, son jardin, son électroménager, îlot sans cesse démultiplié. Lui, il se laissera fondre comme un morceau de sucre, dans cette sensation qui est toujours une sensation d'enfance. Quand le corps plonge dans l'eau, quand elle refroidit la brûlure, quand les yeux se rouvrent dans la matière fluide où l'on disparaît. Il sera un homme liquide, un homme qui accepte de se laisser porter. Il ne sera plus que cela. Ce picotement, cette fraîcheur, cette légèreté, ce vent dans les branches qui ressurgit sous forme de caresses au sortir de l'eau tiède, cette eau qui n'a pas de fin, puisqu'en enchaînant les piscines, il créera un autre fleuve impossible, celui qui mène sans heurts de l'enfance à l'âge adulte. Il ne va plus cesser de jeter son corps d'athlète contre les surfaces bleues où se reflètent les convives des fêtes, les verres de champagne, les contraintes et les régimes, tous les attributs de cette société blanche, aisée, qui trompe mal son ennui. Au début, on se dit que le film raconte ça. L'histoire d'un type, plus rêveur que les autres, qui envoie balader les conventions sociales et les bavardages pour devenir, il le claironne, un explorateur. Un aventurier du quotidien qui n'hésite pas à traverser les miroirs bleus où se mirent des gens vulgaires et autosatisfaits pour aller voir de l'autre côté, pour en finir avec leurs croisières dans les Caraïbes et leurs brosses à dents électriques, leurs tondeuses à gazon avec toutes les options, Leur conversation sur les filtres des piscines qui retiennent 99,9999% des impuretés de l'eau, leur prix de revente, leur plus-value. Dans les nuages, ils voient Lisbonne, Naples, Istanbul, quand les autres voient Hackensack dans le New Jersey. Il révèle les petitesses, les mesquineries, lui qui est si grand, si fort, dont les yeux sont si clairs, en maillot de bain, toujours, une prouesse d'acteur autant qu'une économie de costumes qui font de Ned Marill un personnage logo, comme les super-héros, un héros presque nu, un héros en maillot. Baigné de cette musique si triste, si étrange en ce début ensoleillé, qui nous murmure déjà que ce sera l'histoire d'une chute plus brillante que les autres, dans un perpétuel été. Tout commence à dérailler quand il rencontre l'ancienne babysitter de ses filles. Quand il pose sur son corps en bikini un regard sans équivoque et lui demande si elle souhaite l'accompagner. « I can swim home », déclare-t-il fièrement, comme il ne cessera à chaque étape de le répéter. Il plonge et la surface se brise. À la sortie de l'eau, tout est flou. Sans doute ont-ils encore des gouttes d'eau dans les cils qui troublent aussi la vision du spectateur, diffractent le réel, en donnent une version éblouie, fausse et merveilleuse, une version balnéaire. Elle lui avoue qu'il a été dans l'enfance son grand amour. Elle le prenait pour un dieu, elle lui volait ses chemises, elle rêvait tout éveillée. Mais le rêve de la petite fille s'arrête là, pas celui de l'homme mûr, qui bientôt caressera le ventre nu de son ancienne babysitter en lui récitant la Bible, jusqu'à ce qu'elle s'enfuit en courant. D'un coup, son corps paraîtra plus lourd. Le colosse sera fissuré. Le dieu est redescendu sur terre, son désir n'est pas partagé, il marche seul, désormais. Les piscines dans lesquelles il s'acharne à nager ne reflètent plus seulement la vie artificielle de leur propriétaire, mais de plus en plus celle de Ned Merrill lui-même, comme si chaque tesson bleu ajoutait un point de vue, un détail, dressant un portrait de plus en plus cabossé. Dans ces miroirs successifs, on voit un homme vieillir, en accéléré. Voulant briser la surface, il se contente de s'y mirer et s'étonne à chaque fois d'avoir changé. C'est entre les piscines, dans les moments escamotés par la brillance des plongeons, que se déroule l'essentiel d'une vie dont nous ne saurons rien, mais dont le poids aura raison du héros. C'est là que se cache le temps qui passe sans éclat, le quotidien partagé, la banalité qu'il refuse et qui pourtant le ronge. C'est la masse de tout ce qu'il oublie, de tout ce qu'il néglige, qui à la fin le rattrape. The Swimmer est le plus lumineux, le plus pop des films de fantômes. Parce que le corps de Ned Merrill, ce corps qui semble ne jamais vieillir, cette masse de muscles dont on se souvient une fois l'écran éteint comme d'une carapace friable, est un corps déjà mort. C'est le portrait de Dorian Gray qu'on voit resplendir à l'écran. C'est son charme factice qui irradie. Lui, l'original, l'homme fragile et seul, est allé vieillir ailleurs, à l'abri de notre regard. Il a mené sa vie tandis qu'on fixait son miroir.
Être ou ne pas être le peuple, là est la question. La question centrale. Et j'habite le cœur de la question car je peuple le peuple. Je le peuple même, pour ainsi dire, par le milieu. Je le nourris de moi-même. Et n'allez pas croire que ce soit si simple de nourrir le peuple de moi-même, surtout pour moi-même, bien sûr. D'ailleurs, j'ai souvent mal au foie. Non, c'est un exercice difficile, ingrat, terrible. C'est un exercice chronophage et géophage, un exercice autophage. Mais ne brûlons toutefois pas les étapes, car il faut être le peuple tout petit déjà pour être le peuple un jour. Il faut être le peuple dès le début de moi-même. Et le peuple dès le début de moi-même, et ce n'est pas rien, non. C'est quelque chose d'être moi-même le peuple et de l'avoir compris si tôt, de l'avoir compris si prématurément par un lointain après-midi de novembre, alors que je me tripotais le zizi devant le miroir du salon, assis au milieu de mes trains électriques, d'avoir vu ce que le peuple voyait en moi-même, à savoir lui et moi m'y contemplant, intuition spéculaire sans retour possible, et d'avoir laissé entrer en moi l'aigle qui me dévorerait le foie. Je me m'aime et le peuple me m'aime. Autrement dit, lui et moi, nous nous m'aimons. Cela s'entend puisque nous sommes tout un, lui et moi, puisque nous avons brisé la glace depuis presque toujours, puisque lui c'est moi et moi c'est lui, et le peuple s'aime parce qu'il m'aime et sait que je l'aime, n'étant moi-même rien d'autre que le peuple bien compris et bien comprenant, avec en prime ce sacré mal au foie. Et le peuple non seulement s'aime, mais il sème aussi parfois. Il sème le vent et récolte alors la tempête. C'est un phénomène climatique qui n'a rien à voir avec ce qui n'existe pas. Alors parlons de ce qui existe. Le peuple, lui, existe. Contrairement, par exemple, à la fée Clochette ou aux violences policières. Il existe et j'avance dans l'œil du peuple qui a le regard clair de mes yeux bleus. Le peuple est rond, ferme, entier. Pareil à un œuf qui ne se briserait pas. Un œuf nyctalope aux yeux bleus et je bois mes mots à la lèvre du peuple. C'est savoureux, c'est doux, c'est pédagogique. Je débat et me débat dans la bouche du peuple. Nous mâchons ensemble. C'est une gymnastique synchrone qui ne s'improvise pas. Enfin, pas tout de suite, car avec le temps, cela devient presque un jeu d'enfant. Le peuple et moi, nous nous levons ensemble, nous nous lavons ensemble, nous nous brossons les dents ensemble, nous marchons ensemble, nous nous rasons ensemble, nous nous endormons ensemble. Ah ! Comme il est bon d'être le peuple en moi. Il arrive que le peuple se pose des questions angoissées sur le proche avenir de la calotte glaciaire et du vertige de cet acabit où se mêlent tout à trac la disparition des éléphants blancs, la cure d'amaigrissement de la couche d'ozone et autres pets de vaches mortifères. Et le peuple a peur pour lui et pour moi et pour nos enfants du peuple. Et il m'imagine volontiers en dernier pingouin dressé sur la pointe de son dernier iceberg fondant comme glace italienne au soleil. Mais non, non, que le peuple se rassure. Que le peuple se rassure. Je n'ai pas peur, moi, de regarder dans les yeux les enfants des enfants de mon peuple qui seront morts avant d'être nés et de leur dire que je prends le problème à bras-le-corps, dès à présent, pas dans 100 ans. De leur dire qu'ils peuvent vérifier que mon peuple affamé ne trouvera jamais rien de comestible à se mettre sous la dent dans mes bacs à ordures à couvercle jaune. Que je ne mange de tofu qu'équitable, de viande que tracée à la craie blanche sans colorant. Et que toutes mes capsules de café sont compostables comme je le suis moi-même, aux grands mots, les grands remèdes, engrais fertiles des jeunesses brûlées à venir, comme l'est mon peuple, que je n'en finis plus de recycler pour le bien du peuple, que mon peuple se rassure et me rassure moi-même, le mal qui me ronge le foie n'a aucun lien avéré avec le glyphosate. C'est un mal beaucoup plus subtil, un mal que cultive chaque jour un peu plus la main droite que je glisse dans l'échancrure de mon veston. Le peuple n'a pas à s'en faire. Je veille sur la prunelle de mes yeux et le peuple peut, je, me regarder en face. Le port du peuple, couvrant la bouche et le nez, est obligatoire en station et dans les trains, sous peine d'une amende de 135 €. Et je n'y dérogerai pas. Je ne me défilerai pas. Je pousse même plus loin le bouchon et c'est en tout lieu et toutes circonstances que je porte le peuple à mon visage, sous peine de mauvaises figures infligées à moi-même, car une chose est d'être le peuple, une autre de le rester. Cela exige une grande rectitude, le maintien permanent d'un état d'osmose sans faille, voilà, d'autant que le peuple peut parfois glisser, ne nous y trompons pas. Il peut se savonner lui-même la planche et faire faux bond à son berger. Et alors là, rien ne va plus. Vous verrez, on peut toujours hurler à ses oreilles « Qui suis-je sinon toi-même » La ligne rouge est franchie. Le peuple a les esgourdes vrillées et la nuit prend soudain possession de mon visage dépeuplé. Alors non, non, pas de ça. Pas de machine arrière. Je ne traverserai pas le miroir à l'envers. Je n'ai pas offert mon foi impériale au peuple pour qu'il me prive de sa vérité. Je ne le laisserai pas me tomber sur le menton. Je ne le laisserai pas me démantibuler à avouer la nudité de mon rictus. Il ne pourra pas se faire que je ne sois pas le peuple. Mon zizi me l'a juré il y a longtemps devant le miroir du salon. Ah, qu'il est difficile. Qu'il est difficile, mais qu'il est inspirant de ne pas être le peuple. Soudain, ça y est. Le peuple se sépare. Et c'est très contrariant. Il se sépare, tout simplement. Il s'effiloche, se liquéfie et se répand dans les rues de Paris. C'est un spectacle navrant. Il chante, mon peuple, sans dents, des chansons dont je distingue mal les paroles. Il invente des instruments de musique disharmonieux, comme l'orgue de Barbarie ou le cocktail Molotov. Il martèle des slogans dans une langue que je ne parle pas. Il fait des rimes en isthme et joue de la trompette sans se boucher les oreilles. Mon peuple borgne sera bientôt sourd et il ne pourra s'en prendre qu'à moi-même. Il se déverse tel une coulée ectoplasmique dans les artères de la nation indivisible. Et j'ai beau, île entre ciel et eau, m'avancer à mon balcon et exhiber à bout de bras mon foie sanguinolent, rien n'y fait. Le peuple désagrégé ne comprend plus qu'il ne comprend pas. Lapin de Garenne pris dans le rayon du phare, le voilà fasciné par sa propre fin. Le choc va être d'une violence inouïe, je vous préviens. Et c'est là. Car c'est ma faute, ma très grande faute, de n'avoir pas su trouver les mots. C'est là que je dois tout reprendre à zéro. De la recette des montants compensatoires jusqu'à celle de l'omelette, il faut recommencer. Je dois rapatrier mes viscères et me recoudre le ventre, ravaler les flatulences de mon peuple, déglutir le vomi de sa rage. Oui, je dois, pauvre Sisyphe au miroir, rassembler en moi le peuple que je suis et que je n'ai jamais cessé d'être. Je dois à nouveau l'installer dans ma bouche, ce bon peuple auquel j'ai tant et tant à raconter, le mastiquer patiemment, ne pas en perdre une miette, l'ingérer, le digérer, et le reste suivra. Merci beaucoup. Merci également de notre part, bien sûr, à nos amis d'entrevue et à la FMSH qui nous reçoit ce soir. Juste donc vous redire, il y avait donc Hugues Leroy, Joanne Matali au violoncelle, Hélène Gaudit, Noël Rollet et Antonin Crène. Voilà. Et je suis Frédéric Fiolot. Voilà.